Chapitre 1. C'était un de ces matins de septembre parfaits, baignés d'une lumière dorée comme on en voit dans cette belle région qu'est le Massachusetts. Les élèves du prestigieux lycée de Saint-Ambrose commençaient à arriver. Les imposants bâtiments en pierre, bâtis plus de 120 ans auparavant, affichaient une allure aussi distinguée que les universités où la plupart des élèves seraient acceptés une fois diplômés. Nombreux étaient ceux de Saint-Ambrose à avoir laissé leur empreinte sur leur époque. Ce matin-là, le lycée vivait une rentrée historique. Après une dizaine d'années de débats houleux et passionnés, l'établissement était enfin prêt à recevoir 140 élèves de sexe féminin, en plus des 800 garçons déjà présents. Au cours des 3 prochaines années, un programme allait être mis en place afin d'intégrer 400 jeunes filles à Saint-Ambrose. À terme, le lycée devait atteindre un nombre total de 1200 élèves. Pour cette première année, l'école accueillerait 60 jeunes filles en troisième, 40 en seconde, 32 en première et 8 en terminale. Parmi celles-ci, il y avait 2 cas typiques. Soit ces élèves venaient juste d'emménager sur la côte Est, soit elles avaient une raison valable pour changer d'école. Chacune des candidates avait été soigneusement sélectionnée afin que sa personnalité soit conforme aux normes morales et scolaires de Saint-Ambrose. Jusqu'à présent, les changements s'étaient déroulés sans problème. 2 dortoirs avaient été construits pour accueillir les nouvelles élèves, un troisième serait terminé d'ici un an, puis un quatrième. De longs séminaires avaient été organisés pour aider les professeurs à adapter leur enseignement à des classes mixtes. Les partisans de cette mixité avaient insisté sur le fait que cela améliorerait le niveau académique de l'école, car, à âge égal, les jeunes filles ont tendance à se consacrer davantage à leurs études que les garçons, et elles intègrent l'université plus tôt. D'autres avaient affirmé que cela permettrait aux élèves de mieux apprendre à vivre et à travailler ensemble, à collaborer, coopérer. Se mesurer académiquement à des membres du sexe opposé pouvait être bénéfique à toutes et à tous. Et en définitive, un environnement de travail mixte était nettement plus représentatif du monde réel. Ces dernières années, les inscriptions à Saint-Ambrose avaient légèrement diminué. La plupart des autres lycées réservés à l'élite étaient mixtes, ce que la majorité des élèves préféraient. En refusant de s'ouvrir à la mixité, Saint-Ambrose ne pouvait se maintenir à niveau. La bataille avait été longue, d'autant que le proviseur, Taylor Houghton IV, était l'un des derniers à être convaincu des avantages de cette mixité. Il n'y voyait que des complications sans fin, incluant des amourettes entre élèves, ce que les professeurs n'avaient pas à gérer dans une école exclusivement masculine. Quant à Larry Gray, directeur de la section de littérature anglaise, il avait demandé s'ils allaient rebaptiser l'école Saint-Sodome et Gomorre. Après 37 années passées à enseigner à Saint-Ambrose, c'était cet homme traditionnaliste, conservateur et aigri par l'échec de sa vie privée qui s'était montré le plus véhément face à ce changement. Ses objections avaient finalement été rejetées par les partisans de la modernité, quand bien même cette évolution représentait un véritable défi pour tous. L'amertume de Larry Gray remontait à 10 ans, après son arrivée à Saint-Ambrose, quand sa femme l'avait quitté pour le père d'un élève. Il ne s'en était jamais remis, pas plus qu'il ne s'était remarié. Gray était un homme fort malheureux, mais un excellent professeur qui parvenait à obtenir les meilleurs résultats de chacun de ses élèves. Grâce à son enseignement, ils étaient parvenus à l'excellence et avaient pu intégrer les plus grandes universités. Taylor Houghton aimait beaucoup Larry Gray, qu'il appelait affectueusement « le grincheux », et il s'attendait à l'entendre ronchonner tout au long de l'année. Sa réticence envers la modernisation de Saint-Ambrose avait d'ailleurs valu à Larry d'être écarté du poste de proviseur adjoint pendant longtemps. À 2 ans de la retraite, il s'entêtait encore à exprimer ses objections face à l'arrivée des jeunes filles dans leur établissement. Lorsque le précédent proviseur adjoint avait pris sa retraite, le conseil d'administration avait eu du mal à trouver un remplaçant à la hauteur. Mais il avait finalement réussi à dénicher la perle rare, Nicole Smith, une brillante jeune femme afro-américaine en poste dans un lycée concurrent. Ancienne étudiante de Harvard, Nicole Smith avait été ravie d'accepter, qui plus est, pendant une période aussi stimulante. Son père était le doyen d'une petite université respectée et sa mère, poétesse reconnue, enseignait à Princeton. À 36 ans, Nicole débordait d'énergie et d'enthousiasme et on sentait qu'elle avait l'enseignement dans le sang. Taylor Houghton, le corps professoral et le conseil d'administration étaient enchantés qu'elle se joigne à eux. Même Larry Gray n'avait guère eu d'objection à son égard et semblait presque l'apprécier. Il n'aspirait plus au poste de proviseur adjoint. Tout ce qui lui importait désormais, c'était de prendre sa retraite. À la tête du conseil d'administration, Shepard Watts avait été l'un des plus ardents défenseurs de la nouvelle mixité de l'école. Il admettait volontiers que ce n'était pas sans arrière-pensée. D'ici un an, ses filles, des jumelles âgées de 13 ans, entreraient en troisième à Saint-Ambrose. Et ensuite, ce serait au tour de son fils de 11 ans. Shepard souhaitait que ses filles aient autant de chances que ses fils de recevoir une éducation de premier ordre. Les jumelles avaient déjà rempli leur dossier de candidature et avaient été acceptées, sous réserve d'obtenir de bons résultats en quatrième. Étant donné leur excellent parcours scolaire, personne ne doutait qu'elles y parviendraient. Quant à Jamie Watts, le fils aîné de Shepard, c'était l'une des vedettes de Saint-Ambrose. Ses résultats scolaires étaient remarquables et ses succès sportifs faisaient de lui l'un des athlètes les plus prometteurs de l'école. Sur le point de faire sa dernière rentrée, il était apprécié de tous. Shepard était banquier d'affaires à New York et sa femme, Hélène, mère de famille à plein temps, était responsable de l'association des parents d'élèves. 20 ans auparavant, elle avait travaillé pour Shepard comme stagiaire et l'avait épousé un an plus tard. C'étaient de bons amis de Taylor et de sa femme Charity, qui les appréciaient énormément. Ces derniers avaient une fille, mariée, qui vivait à Chicago, où elle exerçait la profession de pédiatre. Charity, elle, enseignait l'histoire et le latin à Saint-Ambrose et se réjouissait de l'arrivée des jeunes filles dans leur lycée. Issue de la grande bourgeoisie de la Nouvelle-Angleterre, le statut d'épouse du proviseur lui allait comme un gant. Elle était fière de Taylor, qui, à 10 ans de la retraite, n'avait jamais cessé d'aimer son métier. Malgré le nombre de pensionnaires dans l'établissement, chacun avait le sentiment de faire partie d'une grande famille. Et Charity se faisait un devoir de connaître le plus grand nombre possible d'élèves et de parents. Comme d'autres professeurs, elle était aussi tutrice. Elle veillait au bien-être et aux résultats d'un groupe d'élèves pendant tout leur parcours à Saint-Ambrose. Et dès leur entrée à l'école, elle travaillait avec d'autres enseignants sur leur candidature à l'université, rédigeant des recommandations et les aidant à remplir leur dossier d'admission. Chaque année, un nombre impressionnant d'élèves était ainsi en mesure de poursuivre dans l'une des 8 universités privées de l'Ivy League, les plus cotées du pays. Taylor et Nicole Smith se tenaient sur les marches du bâtiment principal, regardant les étudiants arriver petit à petit. Shepard Watts et son fils Jamie descendirent de voiture. Le fils rejoignit directement ses amis, tandis que le père venait dans leur direction pour les saluer. Les yeux brillants d'excitation, la proviseure adjointe contemplait la procession de SUV qui se dirigeait vers les aires de stationnement. « Comment ça se passe ?» s'enquit Shepard. Nicole affichait un large sourire. « Très bien. Les premiers sont arrivés à 9h01 précise. » Les parkings se remplissaient à vue d'œil. « Où est Larry ?» demanda Shepard à Taylor. En général, ce dernier se tenait également sur les marches pour observer l'arrivée des élèves. « Il est dans mon bureau. Une infirmière l'a placé sous oxygène », plaisanta Taylor. Tous trois éclatèrent de rire. Grand, athlétique, Taylor avait des cheveux poivre et sel, les yeux bruns et le regard vif. Comme tous les hommes de sa famille, il avait étudié à Princeton. Charity, elle, était allée à Wellesley. Shepard, bel homme aux cheveux noirs et au regard bleu perçant, était lui un ancien étudiant de Yale. C'était aussi le plus doué pour lever des fonds. Il n'acceptait aucun refus. Et grâce à lui, les parents d'élèves, actuels et anciens, versaient de belles sommes pour Saint-Ambrose. Lui-même était un généreux donateur. Ces 3 dernières années, il avait amplement montré son attachement à l'école. Malgré un travail exigeant, c'était aussi un père dévoué. La rentrée suivait donc son cours. Les familles déchargeaient les vélos, les ordinateurs et tout le nécessaire pour le confort de leurs enfants, tandis que les professeurs installés derrière de longues tables assignaient les dortoirs. Comme toujours, une certaine confusion régnait. Les parents se débattaient avec les bagages et les élèves cherchaient avant tout à retrouver leurs camarades. Toutes les informations leur avaient été envoyées par email un mois auparavant, mais on redonnait les numéros des dortoirs et l'emploi du temps de la journée à ceux qui avaient oublié leurs documents. Les élèves de troisième étaient affectés à des chambres de 4 à 6 lits, les élèves de seconde et première à des chambres pour 3 ou 4, et les terminales avaient le privilège de chambres individuelles ou doubles. Les dortoirs féminins avaient la même configuration.